Chapitre 33 Les mangemorts. Voldemort détourna le regard et commença à examiner son propre corps. Il contempla ses mains, semblables à de grandes araignées blafardes, puis caressa de ses longs doigts blanchâtres sa poitrine, ses bras, son visage. Ses yeux rouges, aux pupilles verticales, comme celles d'un chat, paraissaient encore plus brillants dans l'obscurité. Il tendit les mains devant lui, plia et déplia les doigts avec une expression de ravissement. Il n'accorda pas le moindre regard à Queudeverre qui se tortillait sur le sol, le bras ruisselant de sang, ni au serpent qui était revenu et sifflait en décrivant des cercles autour de Harry. Voldemort glissa dans une poche de sa robe une de ses mains aux doigts d'une longueur surnaturelle et en sortit une baguette magique. Il la caressa doucement, la leva et la pointa sur Queudeverre qui fut soulevé du sol et projeté contre la pierre tombale à laquelle Harry était attaché. Il s'effondra par terre et resta là, recroquevillé, gémissant. Voldemort tourna alors ses yeux écarlates vers Harry et éclata d'un rire glacial, sans joie. Du sang luisait sur la cape de Queudeverre. Il avait enveloppé son moignon dans un pan d'étoffe.
« Maître, maître, vous aviez promis, vous aviez promis !»«
Tends ton bras !» dit Voldemort d'un ton nonchalant.
« Oh, maître, merci, maître !»
Il tendit son moignon sanglant, mais Voldemort éclata d'un nouveau rire.
« L'autre bras à queue de verre !»«
Maître, s'il vous plaît,
Voldemort se pencha et saisit queue de verre par son autre bras. Il lui remonta la main jusqu'au-dessus du coude et Harry vit quelque chose sur sa peau, une sorte de tatouage rouge éclatant, qui représentait une tête de mort avec un serpent qui sortait de la bouche. La même image qui était apparue dans le ciel le jour de la Coupe du Monde de Quidditch. La marque des ténèbres. Voldemort l'examina attentivement sans prêter attention aux sanglots incontrôlables de queue de verre.
« Elle est de retour. Ils l'auront tous remarqué. Maintenant, nous allons voir. » « Nous allons savoir. »
Il appuya son long index blanchâtre sur la marque que portait le bras de Queudeverre. Aussitôt, une douleur aiguë transperça à nouveau la cicatrice de Harry et Queudeverre poussa un long gémissement. Voldemort retira son doigt. Harry vit alors que la marque était devenue d'un noir de jais. Avec une expression cruelle et satisfaite, Voldemort se redressa, rejeta la tête en arrière et scruta l'obscurité du cimetière.
« Combien auront le courage de revenir lorsqu'ils la sentiront ?»
murmura-t-il, ses yeux rouges flamboyant vers les étoiles.
« Et combien seront assez sots pour rester à l'écart ?»
Il se mit à faire les 100 pas devant Harry et Queudeverre, son regard balayant l'étendue du cimetière. Au bout d'un long moment, il se tourna à nouveau vers Harry et un sourire féroce déforma son visage de serpent.
« Harry Potter, tu te tiens sur le reste de mon père. C'était un moldu et un imbécile. Très semblable à ta chère mère, mais tous deux ont eu leur utilité, n'est-ce pas? Ta mère est morte pour te protéger quand tu étais enfant et moi, j'ai tué mon père. Mais regarde comme il m'a été utile dans la mort. »
Une nouvelle fois, Voldemort éclata de rire. Il recommença à faire les 100 pas en jetant des regards tout autour du cimetière et le serpent continua de décrire des cercles dans l'herbe.
« Tu vois cette maison sur la colline, Potter? Mon père y habitait. Ma mère, une sorcière qui vivait ici dans ce village, est tombée amoureuse de lui. Mais il l'a abandonnée quand elle lui a révélé ce qu'elle était. Mon père n'aimait pas la magie. Il l'a donc quittée avant même ma naissance, pour retourner chez ses parents moldus. Ma mère est morte en me donnant le jour, et j'ai été élevé dans un orphelinat moldu. Mais j'avais juré de retrouver mon père, et je me suis vengé de lui, de cet idiot qui m'avait donné son nom. Tom Jedusor. »
Il continuait inlassablement de faire les 100 pas, ses yeux rouges allant d'une tombe à l'autre.
« Écoute-moi ça. Voilà que je suis en train de revivre l'histoire de ma famille. Je deviens sentimental. Oui. Mais regarde, Harry, ma véritable famille revient.
s'élevant de partout, Harry entendit soudain des bruissements d'étoffes. Entre les tombes, derrière l'if, dans chaque coin d'ombre, des sorciers vêtus de capes arrivaient en transplanant. Tous avaient le visage masqué par des cagoules. Un par un, ils s'avançaient lentement, précautionneusement, comme s'ils avaient du mal à en croire leurs yeux. Debout, au milieu du cimetière, Voldemort les regardait venir vers lui. Puis l'un des mange-morts tomba à genoux, rampa vers Voldemort et embrassa l'ourlet de sa robe.
« Maître, maître !»
murmura-t-il. Le mange-mort qui se trouvait derrière lui fit de même. Chacun d'eux s'avança ainsi à genoux vers Voldemort, embrassa le bas de sa robe, puis rejoignit les autres qui formaient à présent un cercle autour de la tombe de Tom Jedusor, de Harry et de Queudevert, qui n'était plus qu'un petit tas de chiffons secoués de sanglots. Les mange-morts avaient laissé des espaces libres dans leur cercle, comme s'ils attendaient de nouveaux arrivants. Voldemort, lui, ne semblait attendre personne d'autre. Il regarda les visages masqués de ses fidèles, et bien qu'il n'y eût pas de vent, un frémissement parcourut le cercle, comme s'il avait été saisi de frissons.
« Soyez les bienvenus, mange-mort. Très ans ont passé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, pourtant. Vous avez répondu à mon appel, comme si nous nous étions quittés hier. Cela signifie que nous sommes toujours unis sous la marque des ténèbres. « Mais est-ce bien sûr ?»
Il rejeta en arrière son horrible tête et renifla, élargissant ses narines en forme de fente.
« Je sens les effluves de la culpabilité, une terrible culpabilité qui empeste l'atmosphère. »
Un nouveau frisson parcourut le cercle comme si chacun d'eux avait voulu, sans l'oser, faire un pas en arrière.
« Je vous vois tous en parfaite santé. » Avec des pouvoirs intacts. Vous avez été si prompt à transplaner, je me demande. Comment se fait-il que tous ces sorciers ne soient jamais venus au secours de leur maître, à qui ils avaient juré une fidélité éternelle?
Personne ne répondit, personne ne fit un geste, à part Queudevert qui continuait de sangloter sur le sol en serrant contre lui son moignon sanglant.
Je peux donner la réponse moi-même. C'est sans doute qu'ils m'ont cru brisé, parti, disparu. Ils sont donc retournés parmi mes ennemis. Ils ont plaidé l'innocence, l'ignorance. Ils ont prétendu avoir été ensorcelés. Je me demande alors, comment ont-ils pu penser que je ne reviendrais pas? Eux qui savaient tout ce que j'ai fait, il y a déjà longtemps pour me garantir contre la mort. Eux qui avaient eu la preuve de l'immensité de mes pouvoirs, au temps où j'étais le plus puissant des sorciers. Cette fois encore, je peux avancer une réponse. Peut-être ont-ils cru qu'un pouvoir plus grand encore pouvait exister. Un pouvoir qui aurait pu vaincre Lord Voldemort lui-même. Peut-être ont-ils juré fidélité à un autre. Peut-être à ce défenseur des gens du commun, des sangs de bourbe et des moldus, Albus Dumbledore. »
À la mention du nom de Dumbledore, le cercle frémit et certains murmurèrent en hochant la tête. Mais Voldemort ne leur prêta aucune attention.
« C'est pour moi une déception. Je m'avoue déçu. »
L'un des sorciers masqués se jeta alors en avant, brisant le cercle. Le corps parcouru de tremblements, il se laissa tomber aux pieds de Voldemort.
« Maître !»
s'exclama-t-il.
« Maître, pardonnez-moi, pardonnez-nous »
Voldemort se mit à rire et leva sa baguette.
« Andoloris !»
dit-il. Le mange-mort se tordit sur le sol en poussant des hurlements. Harry était sûr qu'on devait l'entendre dans toutes les maisons alentour. « Pourvu que la police vienne » songea-t-il désespérément. « Quelqu'un, quelque chose !» Voldemort leva à nouveau sa baguette et le mange-mort endolori resta étendu à plat ventre, la respiration saccadée.
« Lève-toi, Harry !»
dit Voldemort d'une voix douce.
« Lève-toi. Tu demandes mon pardon. Sache que je ne pardonne pas et que je n'oublie pas 13 longues années. Je veux que tu me rendes 13 ans avant de te pardonner. queue de verre ici présent a déjà payé une partie de sa dette. N'est-ce pas, queue de verre ?
Il baissa les yeux vers le petit être prostré qui continuait de sangloter.
Tu es venu vers moi non par loyauté, mais par crainte de tes anciens amis. Tu as mérité cette souffrance, queue de verre. Tu le sais, n'est-ce pas ?
Oui, maître, oui.
Gémit queue de verre.
S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît.
Mais tu m'as aidé à retrouver mon corps.
Poursuivit Voldemort de sa voix glacée en regardant queue de verre sangloter par terre.
Bien que tu sois une canaille, un traître, tu m'as aidé. Et leur Voldemort récompense ce qu'il aide.
Une nouvelle fois, Voldemort leva sa baguette et la fit tourner au-dessus de sa tête. Une volute qui semblait faite d'argent fondu apparut dans les airs, jaillissant dans le sillage de la baguette magique. La volute tournoya sur elle-même en prenant peu à peu la forme d'une main humaine qui brillait sous la lune. La main fondit alors sur queue de verre et se fixa à son moignon sanglant. Queue de verre cessa brusquement de sangloter. La respiration rauque et précipitée, il releva la tête et contempla d'un air incrédule la main d'argent attachée à son bras, sans qu'on puisse distinguer la moindre cicatrice, comme s'il portait un gant étincelant. Il plia et déplia ses doigts scintillants, puis d'un geste tremblant, il ramassa une brindille sur le sol et la réduisit en poussière.
« Oh, maître » murmura-t-il. « Maître, elle est si belle. Merci. Oh, merci. »
Il se précipita à genoux et embrassa la robe de Voldemort.
« Que ta loyauté ne vacille plus jamais, queue de verre. »
dit Voldemort.
« Oh non, maître, plus jamais, plus jamais. »
Le visage encore luisant de larmes, queue de verre se releva et alla prendre sa place dans le cercle, sans quitter des yeux sa nouvelle main à la poigne puissante. Voldemort s'approcha alors de l'homme qui se trouvait à la droite de queue de verre.
« Lucius, mon cher ami, si fuyant, »
murmura-t-il en s'arrêtant devant lui.
« On m'a dit que tu n'as pas renoncé aux anciennes pratiques, bien que tu présentes aux yeux du monde un visage respectable. Tu es toujours prêt à prendre l'initiative quand il s'agit de persécuter des moldus, semble-t-il. Pourtant, tu n'as jamais essayé de me retrouver, Lucius. Tes exploits à la Coupe du Monde de Quidditch étaient amusants. Je n'en disconviens pas, mais ton énergie n'aurait-elle pas été mieux employée ?» à tenter de retrouver et d'aider ton maître.
« Maître, je me tenais prêt à tout moment, » répondit précipitamment la voix de Lucius Malfoy sous sa cagoule. « Au moindre signe de vous, au moindre murmure qui aurait pu me renseigner sur le lieu de votre refuge, je serais immédiatement accouru. Rien n'aurait pu m'empêcher de... »
« Et pourtant, tu as pris la fuite de ma marque lorsqu'un fidèle mange-mort l'a fait apparaître dans le ciel. » « L'été dernier, »
répliqua Voldemort d'une voix nonchalante qui fit taire M. Malfoy.
« Oui, je sais tout cela, Lucius, tu m'as déçu. J'attends de toi une plus grande fidélité à l'avenir. »«
Certainement, maître, certainement, je vous remercie de votre clémence. »
Voldemort s'avança d'un pas et s'arrêta, regardant l'espace vide suffisamment grand pour deux personnes qui séparaient Malfoy de son voisin.
« Ce sont les Lestrange qui devraient se trouver ici, » dit Voldemort. « Mais ils sont enfermés à Azkaban. Ils ont été fidèles. Ils ont préféré renoncer à la liberté plutôt que de me renier. Ah. Lorsque la prison d'Azkaban aura été ouverte, les Lestrange seront honorés au-delà de toutes leurs espérances. Les Détraqueurs se joindront à nous. Ce sont nos alliés naturels. Nous ferons revenir les géants exilés. » Tous mes serviteurs dévoués retourneront vers moi ainsi qu'une armée de créatures redoutées de tous. »
Il continua d'avancer le long du cercle. Il passait devant certains sans rien dire, mais s'arrêtait devant d'autres et leur parlait.
« Macner, alors, d'après ce que m'a dit queue de verre, tu exécutes des créatures dangereuses pour le compte du ministère. Tu auras bientôt de meilleures victimes, crois-moi. Lord Voldemort te les fournira. »
« Merci, maître, merci, »
murmura Macner. Voldemort s'approcha ensuite des deux silhouettes les plus massives que comptait le cercle des Mangemorts.
« Ah, voici, Crabbe. Tu feras mieux cette fois, n'est-ce pas, Crabbe ? Et toi aussi, Goyle.
Tous deux s'inclinèrent maladroitement et répondirent dans un murmure à peine audible.
« Oui, maître. Certainement, maître. »
« Même remarque pour toi, Nott, »
dit Voldemort d'une voix égale en passant devant une silhouette voûtée dans l'ombre de Goyle.
« Maître, je me prosterne devant vous, je suis votre plus fidèle. »
« Ça ira comme ça, » coupa Voldemort.
Il atteignit le plus large des espaces qui brisaient le cercle et le contempla de ses yeux rouges sans expression, comme s'il y voyait quelqu'un.
« Ici, il manque 6 Mangemorts, 3 sont morts à mon service, un autre a été trop lâche pour revenir, il le paiera. Un autre m'a quitté définitivement, il sera tué, bien entendu. Quant au dernier, il reste mon plus fidèle serviteur et travaille déjà pour moi. »
Il y eut un mouvement dans le cercle des Mangemorts. Harry les vit échanger des regards sous leur cagoule.
« Ce fidèle serviteur se trouve à Poudlard. C'est grâce à ses efforts que notre jeune ami est arrivé ce soir. »
Un sourire retroussa sa bouche sans lèvres, tandis que les Mangemorts tournaient les yeux vers Harry.
« Oui, »
reprit Voldemort.
« Harry Potter a eu l'amabilité de se joindre à nous pour fêter ma renaissance. On pourrait même aller jusqu'à le considérer comme mon invité d'honneur.
Il y eut un grand silence, puis le Mangemort qui se trouvait à la droite de Cutvert fit un pas en avant et la voix de Lucius Malfoy s'éleva sous sa cagoule.
« Maître, nous avons hâte de savoir, nous vous supplions de bien vouloir nous dire comment vous avez accompli ce miracle, comment avez-vous réussi à revenir parmi nous ?»«
Ah, c'est toute une histoire, Lucius, »
répondit Voldemort.
« Tout commence et finit avec mon jeune ami, ici présent. »
Il s'avança vers Harry d'un pas nonchalant et s'arrêta à côté de lui de sorte que tout le monde puisse les voir en même temps. Le serpent continuait de tourner autour de la tombe.
« Bien entendu, vous savez qu'on attribue ma chute à ce garçon. »
poursuivit Voldemort, ses yeux rouges fixés sur Harry, dont la cicatrice le brûlait si férocement qu'il aurait presque crié de douleur.
« Vous savez tous que la nuit où j'ai perdu mes pouvoirs et mon corps, j'avais essayé de le tuer. Sa mère est morte en voulant le sauver sans le vouloir. Elle lui a ainsi assuré une protection que je n'avais pas prévue, je le reconnais. Il m'était impossible de toucher ce garçon. »
Voldemort leva l'un de ses longs doigts et l'approcha tout près de la joue de Harry.
« Sa mère a laissé en lui des traces de son sacrifice. C'est de la vieille magie, j'aurais dû m'en souvenir. J'ai été stupide de ne pas y penser, mais ça ne fait rien. » « Maintenant, je peux le toucher !»
Harry sentit l'extrémité glacée du long doigt blanchâtre toucher sa peau, et il eut l'impression que sa tête allait exploser de douleur. Voldemort eut un petit rire, puis il enleva son doigt et s'adressa à nouveau au Mangemort.
« J'avais mal évalué la situation, mes amis, je le reconnais. Le sort que j'ai jeté a été dévié par le sacrifice insensé de cette femme et a rebondi sur moi. Oh ! Douleur des douleurs, mes amis, rien n'aurait pu m'y préparer. Je me suis senti arraché de mon corps, réduit à moins qu'un esprit, moins que le plus infime des fantômes. Mais j'étais quand même vivant. Ce que j'étais devenu moi-même, je l'ignore, moi qui suis pourtant allé plus loin que quiconque sur le chemin qui mène à l'immortalité. Vous connaissez mon but, vaincre la mort. Et maintenant que j'étais mis à l'épreuve, il n'apparaissait qu'une ou plusieurs de mes expériences avaient porté leurs fruits, car je n'avais pas été tué. Alors que le sort qui m'avait frappé était mortel, j'étais cependant aussi dépourvu de force que la plus faible des créatures, et sans aucun moyen d'agir seul. Puisque je n'avais plus de corps et que les sortilèges qui auraient pu m'aider nécessitaient l'usage d'une baguette magique. Je me souviens seulement d'avoir lutté sans repos, sans relâche, instant après instant pour exister. Je me suis installé dans une forêt lointaine et j'ai attendu. Sans aucun doute, l'un de mes fidèles Mangemorts allait essayer de me retrouver. L'un d'eux viendrait et accomplirait le travail magique que j'étais incapable de faire moi-même pour me rendre un corps. Mais j'ai attendu en vain.
Un frisson agita à nouveau le cercle des Mangemorts. Voldemort laissa un horrible silence s'installer avant de poursuivre.
Il ne me reste qu'un seul pouvoir, celui de prendre possession du corps des autres. Mais je n'osais aller dans les endroits trop fréquentés, car je savais que les aurores étaient toujours à ma recherche. Parfois, je m'installais à l'intérieur d'un animal, les serpents étant bien sûr mes préférés. Mais Je ne m'y trouvais guère mieux que sous la forme de pur esprit, car leur corps n'était pas adapté à l'usage de la magie et ma présence en eux abrégeait leur vie. Aucun de mes hôtes n'a duré bien longtemps. Puis il y a 4 ans, j'ai cru avoir trouvé le moyen de revenir. Un sorcier, jeune, stupide, naïf, a croisé mon chemin dans la forêt où je m'étais réfugié. Il semblait représenter enfin la chance dont j'avais rêvé car il était professeur à l'école de Dumbledore. Il n'a pas été très difficile de le soumettre à ma volonté. Il m'a alors ramené ici, dans ce pays, au bout d'un moment. J'ai pris possession de son corps pour m'assurer qu'il exécutait correctement mes instructions. Mais mon plan a échoué. Je n'ai pas réussi à m'emparer de la pierre philosophale. La vie éternelle m'échappait. Oh. J'avais été mis en échec. Et cet échec, une fois de plus, c'était Harry Potter qui me l'infligeait.
Le silence tomba à nouveau. Rien ne bougeait, pas même les feuilles de l'if. Les mangemorts restaient parfaitement immobiles, leurs regards brillants fixés sur Voldemort et Harry.
Mon serviteur est mort lorsque j'ai quitté son corps, et je me suis retrouvé aussi faible qu'avant. Je suis retourné dans mon refuge, très loin d'ici. Et je ne vous cacherai pas que j'ai éprouvé alors la crainte de ne jamais retrouver mes pouvoirs. Cette période a sans doute été la plus sombre de toutes ces années. Je ne pouvais espérer qu'un autre sorcier croise à nouveau mon chemin. Et j'avais abandonné tout espoir qu'un de mes mangemorts se soucie de ce que j'étais devenu.
Dans le cercle des sorciers masqués, quelques mouvements trahirent un certain malaise, mais Voldemort n'y prêta aucune attention.
Et puis, il y a de cela moins d'un an, alors que j'avais presque abandonné tout espoir. Cela s'est enfin produit. Un serviteur est revenu à moi. Que devait qui avait fait croire à sa mort pour échapper à la justice, a été arraché de sa cachette par ceux qu'il avait autrefois compté parmi ses amis, et a décidé de retourner auprès de son maître. Il m'a cherché dans le pays où la rumeur disait que je m'étais réfugié, aidé bien sûr par les rats rencontrés sur sa route. Cudver a d'étranges affinités avec les rats, n'est-ce pas, Cudver? Ses répugnants amis lui ont révélé l'existence au fond d'une forêt d'Albanie, d'un endroit qu'ils évitaient soigneusement, car souvent de petits animaux comme eux y mouraient prématurément, après qu'une ombre noire eût pris possession de leur corps. Mais ce voyage qui devait le ramener vers moi ne s'est pas déroulé sans anicroche, n'est-ce pas, que de faire? Imaginez qu'un soir, à la lisière de la forêt où il espérait me trouver, il s'est bêtement arrêté dans une auberge tout simplement parce qu'il avait faim. Et qui croyez-vous qu'il a rencontré dans cette auberge? Bertha Jorkins, une sorcière du ministère de la magie. Or, voyez comme le destin favorise leur vol de mort. Cette rencontre aurait pu marquer la fin de Cudver et de mon dernier espoir de régénération. Mais Cudver, faisant preuve d'une présence d'esprit que je n'aurais jamais attendue de lui, a réussi à convaincre Bertha Jorkins de l'accompagner dans une promenade au clair de lune. Il l'a alors neutralisée, puis me l'a amenée. Et la rencontre avec Bertha Jorkins, qui aurait pu tout gâcher, s'est en fait révélée une aubaine qui dépassait mes rêves les plus insensés, car il a suffi d'un peu de persuasion pour qu'elle devienne une véritable mine d'informations. Elle m'a ainsi appris que le tournoi des 3 sorciers allait à nouveau avoir lieu cette année et qu'il se déroulerait à Poudlard. Elle m'a révélé également qu'elle connaissait un fidèle mangemort qui ne serait que trop heureux de m'aider si je parvenais à le contacter. Elle m'a dit aussi bien d'autres choses. Mais les sortilèges que j'avais employés pour pénétrer dans sa mémoire étaient très puissants. Et après lui avoir soutiré toutes les informations qui pouvaient m'être utiles, son corps et son esprit avaient subi des dommages irréparables. Elle avait rempli son office. Et comme je ne pouvais la garder auprès de moi, je m'en suis débarrassé.
Voldemort sourit de son horrible sourire de serpent, ses yeux rouges flamboyants d'un regard impitoyable.
Bien entendu, le corps de Cudver était mal adapté à la possession, puisque tout le monde croyait qu'il était mort. Il aurait donc beaucoup trop attiré l'attention si on l'avait vu. Il était cependant le serviteur dont j'avais besoin. Et bien que très médiocre sorcier, Cudver a été capable de suivre les instructions que je lui donnais pour me rendre un corps faible, rudimentaire, mais un corps que je pourrais habiter en attendant de réunir les éléments qui permettraient ma véritable renaissance, et a suffi d'un ou deux sortilèges de mon invention et d'un peu d'aide de mon fidèle Nagini. »
Les yeux de Voldemort se posèrent sur le serpent qui continuait de tourner autour de la tombe.
« Une potion à base de sang de licorne et du venin que me fournissait Nagini. J'ai pu ainsi retrouver une forme presque humaine, suffisamment robuste, pour me permettre de voyager. Je n'avais plus aucun espoir de dérober la pierre philosophale, puisque je savais que Dumbledore avait veillé à ce qu'elle soit détruite, mais j'avais la volonté de revenir à une vie mortelle avant de rechercher à nouveau l'immortalité. J'avais revu mes ambitions à la baisse. Je voulais d'abord retrouver mon ancien corps et mon ancienne force. Je savais que pour atteindre cet objectif, la potion qui m'a rendu la vie ce soir appartient à la magie noire traditionnelle. J'avais besoin de 3 puissants ingrédients. L'un d'eux était déjà à portée de main, n'est-ce pas, Cuthbert ? La chair d'un serviteur. Les ossements de mon père signifiaient qu'il nous faudrait revenir ici, où il est enterré. Mais le sang d'un ennemi, Cuthbert aurait voulu que je prenne celui de n'importe quel sorcier, n'est-ce pas, Cuthbert ? N'importe quel sorcier, pourvu qu'il m'ait haï. Il y en avait beaucoup, mais moi, je savais que si je voulais renaître aussi puissant que je l'avais été, il me fallait le sang de Harry Potter. Je voulais le sang de celui qui m'avait privé de mes pouvoirs 13 ans plus tôt, car alors la protection que sa mère lui avait léguée coulerait également dans mes veines. Mais comment m'emparer de Harry Potter ? Il était mieux protégé qu'il ne s'en doutait lui-même, protégé par des moyens que Dumbledore avait lui-même mis en œuvre lorsque la charge lui était revenue d'assurer l'avenir de ce garçon. Dumbledore a eu recours à des méthodes d'ancienne magie qui assurent la sécurité de Harry Potter tant qu'il se trouve auprès de lui. Même moi, je ne peux pas le toucher tant qu'il est là-bas. Bien sûr, il y avait la Coupe du Monde de Quidditch. Je pensais que sa protection y serait plus faible, loin de Dumbledore. Mais je n'étais pas encore assez fort pour tenter un enlèvement en plein milieu d'une horde de sorciers du ministère. Ensuite, il allait retourner à Poudlard, ou du matin au soir. Il resterait sous le nez crochu de cet imbécile amoureux des moldus. Alors, comment faire pour m'emparer de lui ? Eh bien, en me servant des informations révélées par Bertha, bien entendu, grâce à mon fidèle Mangemort qui se trouvait à Poudlard. Le nom de Harry Potter a été déposé dans la coupe de feu. Grâce à ce même Mangemort, tout a été fait pour qu'il remporte le tournoi et qu'il soit le premier à toucher le trophée. Ce trophée que le Mangemort avait transformé en porte au loin, ce qui me permettait de faire venir Harry Potter ici même, où il ne pourrait plus bénéficier de l'aide de la protection de Dumbledore. Je n'avais plus qu'à l'attendre à bras ouverts, et le voici, ce garçon dont vous pensiez tous qu'il avait eu raison de mourir.
Voldemort s'avança lentement et se tourna pour faire face à Harry. Puis il leva sa baguette.
« Un Dolorès !»
dit-il. Jamais Harry n'avait ressenti une telle douleur. Il avait l'impression que ses os étaient en feu, que sa tête se fendait de part et d'autre de sa cicatrice. Ses yeux, devenus comme fous, ne cessaient de rouler dans leurs orbites. Il n'avait plus qu'une envie, que tout finisse, que tout sombre dans les ténèbres. Plus qu'une seule envie, mourir. Puis la douleur disparut. Le corps inerte, incapable de se tenir debout. Harry n'était plus retenu que par les cordes qui le liaient à la pierre tombale du père de Voldemort. À travers une sorte de brouillard, il leva le regard vers les yeux rouges et brillants, tandis que les rires des Mangemorts résonnaient dans la nuit.
« Vous comprenez maintenant à quel point il était insensé d'imaginer que ce garçon puisse jamais l'emporter sur moi, » reprit Voldemort. « Que personne ne s'y trompe. « Seule la chance a permis à Harry Potter de m'échapper, et je vais faire la démonstration de mon pouvoir sur lui en le tuant ici même sous vos yeux. Cette fois, Dumbledore ne pourra pas l'aider, sa mère ne sera pas là pour mourir à sa place. Mais je vais quand même lui donner sa chance. Il aura le droit de combattre, et vous saurez alors... « Lequel de nous deux est le plus fort ?»« Il te faudra attendre encore quelques instants, Nagini. »
Le serpent s'éloigna en ondulant dans l'herbe et rejoignit le cercle des Mangemorts, avide d'assister au spectacle.
« À présent, détache-le. Cuthbert, et rends-lui sa baguette magique. »